Oui, bonjour tout le monde. Bon, d'abord, commençons par les bonnes nouvelles. Depuis 3 semaines, on maintient une moyenne autour de 1000 nouveaux cas par jour. Donc, l'inquiétude qu'on avait il y a 3 semaines de voir monter ça à 1500, 2000, ça ne s'est pas réalisé, puis heureusement, donc on reste autour de 1000. Ça fluctue, il faut regarder le nombre de tests qui sont faits, mais on est autour de 1000, puis ça c'est grâce aux efforts des Québécois, puis je veux tout de suite dire merci à tous les Québécois pour les efforts spéciaux que vous avez faits depuis 3 semaines. Par contre, je suis très conscient que les mesures qu'on a mises en place sont dures pour les Québécois, les Québécoises. Ce sont des efforts importants qu'on répète et je comprends que certaines personnes ont la difficulté avec les mesures. Mais là, on essaie de trouver un équilibre. On est dans la balance des inconvénients. D'un côté, on a des décès. Aujourd'hui, on a encore 11 décès. On a des hospitalisations. Aujourd'hui, on a 33 hospitalisations de plus. On est rendu à 565. Et, bien, l'autre côté, on a ces mesures-là qui sont difficiles et puis qui affectent même la santé mentale de beaucoup de Québécois. Mais on doit poursuivre les efforts pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais entre autres parce qu'on a un réseau de la santé qui est à bout de souffle. Et puis, bon, j'ai bien vu, puis on a bien vu les infirmières manifester hier. Je comprends la fatigue, je comprends la frustration des infirmières. Je comprends aussi qu'on a promis, on avait promis ça en campagne électorale, qu'il n'y aurait plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais comme vous le savez, on est d'une situation spéciale. On a beau essayer d'afficher des postes, les postes ne sont pas comblés, les postes d'infirmières. Donc, évidemment, ce n'est pas comme les préposés. Là. On ne peut pas, en quelques mois, former des infirmières. Donc, on ne peut pas, même avec toute la bonne volonté du monde, régler le problème du manque d'infirmières. Par contre, je peux vous assurer que je maintiens contact avec Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, qui est en négociation avec les syndicats qui représentent les infirmières. Puis je suis prêt à faire des efforts financiers, entre autres, pour réduire la surcharge de travail. Je suis prêt à peu près à tout faire, je suis ouvert à toutes les solutions pour réduire la surcharge de travail des infirmières. La seule affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas à la fois faire des efforts financiers pour réduire la surcharge de travail, puis à la fois donner des augmentations de salaire de plus que l'inflation. On comprend tous, là, puis le ministre des Finances l'a très bien expliqué, on se dirige cette année sur avoir un déficit d'à peu près 15 milliards de dollars, puis ça va nous prendre 5 ans avant de retrouver l'équilibre budgétaire, puis ça, ça va prendre aussi des efforts de gestion importants, des efforts pour essayer d'augmenter plus vite aussi les revenus par la croissance économique. Donc, il faut respecter la capacité de payer des Québécois. Je pense que ce qu'on essaye de faire dans nos négociations actuellement, c'est vraiment de mettre l'emphase sur réduire la surcharge de travail, entre autres pour les infirmières, mais on ne peut pas augmenter les salaires de plus que l'inflation. Faut respecter la capacité de payer des Québécois. Évidemment, on l'a déjà dit, on ne veut pas augmenter les impôts et les taxes des Québécois. Et donc, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est d'épargner justement les infirmières. Et dans les mesures qu'on choisit, puis bon, je sais que le 28 octobre approche, on a demandé un effort pour 28 jours, on essaie d'épargner les enfants. Bon, actuellement, il y a à peu près 3 % des enfants que les classes sont fermées. Donc, ça veut dire quand même 97 % des enfants qui vont à l'école. pense qu'avec le Dr Arruda, on a fait des efforts importants pour que l'Halloween, ça soit une occasion pour les jeunes de sortir, de se déguiser. Je suis conscient aussi que c'est difficile pour les jeunes un peu plus vieux. Là. Je pense entre autres à ceux qui vont au cégep et à l'université. Dans les zones rouges, il y a des jeunes qui n'ont pas mis les pieds dans leur cégep ou leur université depuis un certain temps. Et puis, c'est bien beau, les cours à distance devant un ordinateur, là, mais c'est pas rien pour motiver quelqu'un. Puis c'est important, j'ai été jeune moi-même, de voir ses amis. Donc, très conscient qu'on demande des efforts. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on regarde là actuellement. Est-ce que c'est possible, un certain rythme, un certain pourcentage des étudiants au cégep à l'université qui aillent faire au moins un tour de temps en temps, une journée à l'université ou au cégep, ne serait-ce que pour le moral des jeunes. Il y a évidemment, puis je l'avais dit, toute la question du sport. Je sais que pour plusieurs jeunes, le sport, c'est comme presque un service essentiel pour les garder positifs. Donc là aussi, on travaille très fort. Il y a aussi toutes les personnes qui sont seules. Puis je veux peut-être revenir sur une consigne, là. Les personnes qui sont seules ont le droit d'avoir la visite d'une personne. Donc ça peut être leur enfant, là, un ami. Puis j'invite tous les Québécois qui connaissent des personnes seules, là. Je sais qu'il y a des problèmes de santé mentale qui s'accumulent chez les personnes seules. Donc si vous avez la chance d'aller visiter une personne seule, vous avez le droit un à la fois, mais vous avez le droit d'y aller. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de ne pas avoir de groupe. Et, bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, ben pourquoi telle consigne? Je donne l'exemple qui revient souvent, les restaurants, les gyms. Pourquoi vous les laissez fermer? Oui, il y a eu des éclosions dans certains gyms, mais pas dans d'autres. Est-ce qu'on peut retourner? Est-ce qu'on pourrait penser retourner au restaurant ou dans les gyms en restant à 2 mètres de distance? Ça aussi, on est en train de regarder ça. Puis au fur et à mesure qu'on va être capable de pouvoir enlever des restrictions, on va le faire. Mais l'idée aussi, c'est d'envoyer un message clair, là. Il faut réduire les contacts, là. Donc, Christian le disait très bien, là, idéalement, passer de 4 à 3. Donc, réduire les contacts, bien, c'est aussi, quand on va au restaurant ou un gym, il y a comme un risque de contact, même si on fait des efforts pour rester à 2 mètres. Bon, parlant de santé mentale aussi, là, je m'assure avec Lionel Carman que tous les services sont donnés, là. D'abord, répondre quand vous avez un problème de santé mentale, vous avez du stress, vous avez de l'anxiété, vous appelez au 811, il va avoir quelqu'un qui va répondre rapidement. Je sais qu'au printemps, ça pouvait être des heures d'attente. Là, on parle de quelques minutes, là. Donc, on va répondre. On a ajouté aussi des ressources. On a déjà embauché là, tout près de 300 personnes, donc du personnel pour donner des services. Puis on va en ajouter un autre 300. Là. Donc, il y a effectivement des ressources qui sont ajoutées pour donner des services. Bon, l'autre chose qui est importante aussi, oui, il faut réduire les contacts, mais il faut tous travailler ensemble sur dépistage, traçage et puis isoler les personnes qui sont positives. Donc, puis là, je le précise, on demande aux personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact plus que 15 minutes avec quelqu'un qui a la COVID, d'aller se faire tester. Donc, seulement ces personnes-là, mais ces personnes-là doivent aller se faire tester. Bon, ensuite, Christian, Dr Arruda travaille très fort pour avoir toutes les équipes pour faire du traçage, incluant dans les régions où peut-être qu'il y a des manques, donc d'être capable d'envoyer les équipes dans les régions pour faire du traçage. Évidemment, je reviens aussi sur l'application COVID, là. Selon nos indications, on a 1 million de Québécois qui se sont inscrits en 2 semaines seulement. Donc, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais ça aide aussi. C'est qu'on avise les personnes qui ont, quand on a la COVID, on avise les personnes qui ont été en contact avec nous depuis 2 semaines, pendant plus que 15 minutes, à moins de 2 mètres. Donc ça, ça aide aussi à détecter rapidement les personnes qui sont à risque d'avoir la COVID. Et ben, la prochaine étape, évidemment, c'est de demander à toutes ces personnes-là de s'isoler rapidement, donc respecter le 14 jours. Donc, c'est un travail d'équipe. Le gouvernement a des responsabilités, puis oui, on a des choses à améliorer, mais chaque citoyen aussi a un devoir de citoyen de respecter les consignes, d'aller se faire tester quand c'est nécessaire, de répondre quand on a un appel sur le traçage, donc être capable de collaborer. Et donc, chaque citoyen a une responsabilité, puis je compte sur vous. Good afternoon, everyone.
OK. Valérie Leboeuf. Ouais. Alors, sur les infirmières, il y avait un message à la suite de la manifestation d'hier. Hein?
Oui, on sent qu'on, c'est comme si on négociait un petit peu sur la place publique.
C'est intéressant.
Oui, quand même.
Je pense que tu as raison.
Parce que quand on dit on est prêt à investir des montants importants pour réduire la surcharge de travail des infirmières, évidemment, on parle des augmentations de salaire. On veut pas que ça dépasse l'inflation parce qu'on a un déficit important.
Moi, ce que je comprends, c'est que je suis prêt à donner des sous pour embaucher des infirmières parce qu'il l'a dit, on a beau afficher des postes ne sont pas comblés. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il aimerait ça combler postes, mais il dit le prix à payer pour en embaucher plus, c'est que je ne peux pas te donner des augmentations de salaire qui dépassent l'inflation.
Exact.
Fait que ça, mettons qu'il a souligné ça à gros, gros traits. Il a parlé des écoles qui veut continuer à protéger. Il dit il y a seulement 3% des enfants qui n'ont pas de...
Que les classes sont fermées.
C'est ça.
Mais les cours à distance, on a ouvert peut-être une petite fenêtre en disant qu'il y a peut-être un certain pourcentage d'étudiants qui pourraient retourner en présentiel, que ce soit au cégep ou à l'université, parce que là, présentement, c'est pas possible.
Effectivement. Il a parlé qu'il discutait avec Dr Arruda, voir comment on peut recommencer les sports pour les jeunes.
Oui.
Tu vois que ça le fatigue. Oui. Période des questions qui commence, on y va tout de suite.
Monsieur Legault, sur les infirmières, j'aimerais ça vous entendre. On est en pleine pandémie, on sait à quel point elles sont essentielles. Comment ça se fait qu'elles doivent se rendre jusqu'à bloquer des ponts hier pour faire valoir leur point de vue? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est pas déjà réglé?
Bien, écoutez, vous savez que la convention collective est terminée depuis le 31 mars. On avait même commencé à négocier avant ça. Comme je l'expliquais tantôt, nous, on est prêts à mettre de l'argent sur des mesures pour réduire la surcharge de travail. Par contre, on n'est pas prêt à aller à plus que l'inflation sur les augmentations de salaire, tout simplement pour une raison de capacité de payer. Il y a des efforts qu'on est prêt à faire cette année, mais dans les prochaines années, les montants récurrents bien, doivent nous permettre, à un moment donné, de respecter la capacité de payer puis d'atteindre l'équilibre budgétaire.
Sur le dépistage, peut-être, Dr Arruda, je ne sais pas où on est rendu. Il y avait un objectif d'embaucher 2000 personnes pour faire du dépistage. Je ne sais pas si l'objectif est atteint. Il semble que vous avez de la difficulté à faire ce recrutement-là. Puis, en sous-question, il semble que le dépistage soit vraiment essentiel pour repérer rapidement les lieux d'éclosion et tout. Est-ce que vous voulez en embaucher plus que ça aussi?
Bien, merci pour la question, M. Lecavalier. Je vais répondre en deux temps. Premièrement, depuis, on vous avait donné une mise à jour en date du 23 septembre. Je peux vous dire qu'en date d'hier, on a doublé le nombre de personnes. Donc, on est passé de 800 quelques personnes pour l'ensemble de la santé publique, là, particulièrement pour le traçage à 1600 personnes. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que dans un mois, on a réussi à doubler le personnel auquel on a accès. Ça, c'est une combinaison de facteurs, notamment avec « Je contribue », avec toutes les personnes qu'on a pu réussir à amasser. Fait que ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que je dirais, là, puis je veux garder ça très simple, pour la partie dépistage qu'on a parlé beaucoup au début de la deuxième vague, je pense que c'est relativement sous contrôle parce que les gens peuvent aller se faire dépister. On a augmenté la capacité, les files d'attente sont plus là. Je pense que la partie dépistage est sous contrôle. Où on a encore de la difficulté, puis il y a une combinaison de deux choses qui est sous notre contrôle à nous, c'est d'être capable d'établir la contagion, c'est-à-dire de fermer le cercle de personnes le plus rapidement possible. Puis ça, bien, ça nous prenait plus de personnel pour le faire. Donc, je vous dis déjà, On avait un enjeu aussi d'opération. Je vous ai parlé de la personne qu'on a engagée la semaine dernière, qui a commencé hier, M. Jérôme Gagnon, qui arrive de la sécurité publique. Donc, toute la partie traçage, je pense qu'on est en train d'améliorer ça beaucoup. Vous allez voir la différence dans les prochaines semaines. On va encore plus cibler, un peu comme il se fait en Ontario, là, après avoir regardé les meilleures pratiques, puis à bien cibler les personnes les plus importantes dans le début du maillon. Parce que souvent, des fois, on allait peut-être un peu loin à essayer de trouver tout le monde, mais les cas les plus importants sont au début. Alors donc, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'impact dans les prochaines semaines. La combinaison d'avoir plus de personnel, on est en train d'ajouter des outils. Et dans notre mécanique, là, la mécanique opérationnelle avec l'arrivée de M. Gagnon, je pense que ça va faire une différence particulièrement dans les régions où on a eu beaucoup d'éclosions. Puis je pense à la Montérégie, je pense à la Capitale-Nationale. Donc, on va avoir une équipe plus centrale qui est capable d'aller d'une région à l'autre où on a des enjeux. Donc, je vous dirais, en ce moment-là, où on met notre emphase, c'est vraiment du côté traçage, alors que je pense que le dépistage, on l'a à peu près réglé.
Tommy Chouinard, La Presse.
Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. On enregistre une baisse quand même dans le nombre de tests, mais on a toujours un nombre similaire de nouveaux cas de COVID-19. Le résultat, c'est que la proportion de tests positifs, n'est-ce pas? L'OMS fixe le seuil définissant une situation pandémique hors de contrôle à 5 %. Est-ce qu'on doit s'attendre à passer ce seuil? Est-ce que ça vous inquiète?
Merci, puis Dr Arruda complétera. Premièrement, il faut voir que, puis je le dis, lorsqu'on regarde nos tests, effectivement, lorsqu'on a un week-end, comme on vient de passer, le nombre de tests qu'on a aujourd'hui est beaucoup plus, reflète beaucoup ce qui s'est passé dimanche, par exemple, parce qu'il y a toujours une à deux journées de décalage. Donc, on est plus sur les tests qui se sont faits durant le week-end avec nos résultats. Ça ne répond pas à toute la partie de la question, au contraire. Mais je dis juste qu'il y a toujours un décalage entre la journée où on fait le gros des prélèvements, parce qu'il y en a à peu près 75 % qui tombent dans les journées qui suivent, d'accord? Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je pense qu'il faut regarder, c'est, encore une fois, je vais revenir à la même réponse, c'est toujours la moyenne mobile. Moi, aujourd'hui, qu'on soit à 800 cas ou 897 cas, est-ce que la moyenne mobile nous montre une tendance des 7 derniers jours? C'est pour ça que le premier ministre y était très clair, qu'en ce moment, on est encore malgré ce pourrait sembler un bon résultat aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question maintenant sur moi, c'est ça qui me préoccupe. J'aime bien mieux qu'on soit capable d'avoir un taux de positivité un peu plus haut, parce que là, on est sûr au moins qu'on teste les bonnes personnes. Moi, j'aime bien mieux avoir un taux de 4-5 % en ce moment, parce qu'on va faire l'effort de traçage dont je parlais tout à l'heure sur les bonnes personnes. Alors que lorsqu'on avait 35 000 tests, on vous rappelait, il y a deux semaines, mais qu'on avait des taux de positivité de 1 %, ben je suis pas sûr qu'on mettait nos efforts sur les bonnes personnes dans le traçage. Alors, en ce moment, le fait d'avoir demandé aux gens qui avaient trois caractéristiques, s'ils avaient été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID, si eux développaient les signes rapidement, puis troisièmement, si on les avait appelés. Alors, donc, je pense qu'il est tout à fait normal que notre taux de positivité a augmenté, parce que ça nous permet maintenant d'être sûr qu'on teste les bonnes personnes. Mais j'en profiterai, M. Chouinard, pour dire une chose aux Québécois. S'il vous plaît, répondez à nos appels. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit, nous, on peut s'améliorer du côté du traçage avec des meilleurs outils, avec plus de personnes. Mais quand les personnes ne répondent pas au téléphone, ça ne nous aide pas. Parce qu'on est. Ça veut dire qu'une personne qui est probablement atteinte, qu'on veut rejoindre, puis elle continue à contaminer. Alors donc, je prends une longue période pour vous répondre, mais les Québécois peuvent beaucoup nous aider de la façon dont ils répondent à nos appels.
Deux petites choses, Monsieur le Premier ministre. D'abord, j'essaie de décoder ce que vous avez dit tantôt, là. Est-ce que ça veut dire qu'on continue le défi? Le défi va être plus que 28 jours pour le gros des mesures, dans le fond, qui ont été annoncées, mais qu'il pourrait y avoir des assouplissements à côté. Et l'autre élément, le printemps dernier, vous disiez suivre là, de façon très, très, très précise la situation des CHSLD RPA. Pouvez-vous nous dire, comme vous le faisiez au printemps, il y en a combien vraiment sous surveillance dans chaque cas?
Hein? Tu veux y aller? Oui. Bien, peut-être je vais répondre sur les RPA et les CHSLD. Je pense que si on prend un petit peu de recul, M. Chouinard, je pense que la situation aujourd'hui, en termes, je vais vous parler en termes de gestion, là, pour moi, elle est beaucoup meilleure qu'à la première vague, même si elle n'est pas parfaite. OK? On s'entend. Moi, ce que j'ai comme premier objectif, puis je suis conscient là, que de l'information, des fois, qui tarde à aller au public, là, puis je vais en parler. Mais ce que j'aimerais vous dire, la première chose qu'on a beaucoup amélioré, puis notamment avec l'arrivée de M. Daniel Desharnais, qui est le SMA qui s'occupe de ce qui se passe dans les CHSLD notamment, c'est d'avoir la bonne information pour agir. Ça, là, je suis pas sûr qu'on avait tout ça dans la première vague. OK? Alors, donc, là, aujourd'hui, quand j'ai une quarantaine de CHSLD sur 400 qui ont été affectés, à moins là, d'une ou deux exceptions, là, à moins d'une ou deux exceptions, on a l'information en termes de gestion pour être capable d'agir quand on l'apprend. C'est 40 CHSLD affectés dans ces 40 CHSLD-là. Mais l'essentiel de ces personnes-là est dans des CHSLD où on a eu beaucoup d'éclosions dans les derniers jours. Puis ça, c'est là qu'il faut faire attention parce que, je vous l'avais dit, quand ça rentre dans les CHSLD, ça rentre rapidement. Alors donc, on a la bonne information de gestion. Je termine en disant, ce qui est notre défi maintenant, qu'on a une liste très claire, opérationnelle avec M. Desharnais, c'est comment je vais la transférer, cette même liste-là, au public le plus rapidement possible. En ce moment, on travaille avec deux listes. On travaille avec la liste de M. Desharnais, qui était faite pour opérationnel, puis je continue à utiliser l'ancien système qui prenait l'information à plusieurs endroits et qui a peut-être créé de la confusion. On va arrêter ça, mais il fallait que je sois sûr que la liste de M. Desharnais, qu'on s'engage à être transparent, va être publiée. J'ai pris un peu plus de temps pour répondre, mais ça, pour moi, c'est important. Donc, je résume, avoir la bonne information de gestion, on l'a et on va l'avoir encore plus avec M. Desharnais. Maintenant, mon engagement aux Québécois, c'est que cette même liste-là, dans les prochains jours, quand je vais être capable de la transférer intégralement, il n'y aura plus deux listes, il va y avoir une liste pour qu'on puisse être informé.
À chaque jour, effectivement, il y en a 40 aujourd'hui des CHSLD, puis on s'en parle à chaque jour. Évidemment, il faut être prudent quand on regarde les RPA puis les RI. Là. Il y a 66 RPA puis 11 RI qui sont infectés, mais dans les RPA, il y a des personnes autonomes qui sortent de la résidence. Donc, c'est pas mal plus difficile pour nous autres de s'assurer que le virus ne rentre pas. Tandis que dans les CHSLD, ce sont des personnes qui ne sont pas autonomes, donc qui ne sortent pas de la résidence. Donc, ça veut dire qu'ils sont infectés, c'est par les employés ou par les visiteurs. Ça, on le suit de très près. Puis à 40, bien, il y en a beaucoup moins qu'au printemps. Là.
Merci, Olivier. OK. Écoutez, moi, je trouve que le ton est pas mal du tout. Ils n'ont pas l'air accablés. Ils ont l'air plutôt de bonne humeur. Luc Lavoie, qu'est-ce que tu en penses, toi?
T'as trouvé qu'ils avaient l'air de bonne humeur?
Oui, je trouve qu'ils ont pas l'air catastrophés. Ils ont pas l'air, tu sais, des fois là, on sortait des points de presse, puis il y avait l'air, on avait l'impression qu'ils avaient toute la crise de la COVID qui leur pesait sur les épaules. Là, moi, je trouve que le ton est bon, puis ils ont l'air plutôt en contrôle. C'est mon sentiment.
Ben, en tout cas, sur le beaucoup en contrôle, je pourrais en reparler, là. Je suis pas sûr de ça, là. Je l'écoutais avec ces histoires de listes, puis deux listes, puis ceci, puis cela, là.
Ben là, Luc, là, sois de bonne foi.
Comment sois de bonne foi?
Sois de bonne foi. Desharnais, c'est l'ancien directeur de cabinet de Gaétan Barrette, là. Ils l'ont embauché comme sous-ministre associé. Et là, ce qu'il dit, c'est qu'on l'a embauché pour qu'il nous donne l'information de ce qui se passe en temps réel. Fait qu'il y avait un vieux système. On voulait pas arrêter le vieux système tant qu'on n'était pas sûr que le nouveau fonctionnait. Là, le nouveau fonctionne. Fait qu'on va se fier sur le nouveau, puis on va avoir des meilleures infos. Vous allez les avoir plus rapidement. C'est ça que j'ai compris.
Ben ouais, peut-être, là. Mais les citoyens qui écoutent ça, là, ils se disent, coudon, ça fait 8 mois que c'est commencé. Ils ont pas encore un système qui, là, il fonctionne à deux listes, puis ceci, puis c'est ça. Ben, je le sais, t'aimerais ça dire que c'est pas grave, mais ça donne pas...
Non, mais là, Luc, quand c'est le temps des planter, je les plante, mais là, je trouve... Regarde, de toute façon, c'est une question d'appréciation. Je veux dire, il y a des journées où tu trouves qu'ils sont bons, moi, je trouve qu'ils sont pas bons. Aujourd'hui, je le trouve plutôt bon, toi, t'es pas convaincu, mais c'est correct, ça. Il n'y a pas de problème avec ça.
C'est correct. Pas de problème, moi non plus. Alors, la question des infirmières.
Oui.
La question des infirmières.
Vas-y, mon Luc.
Je suis pas sûr ce qu'il veut dire. Puis un journaliste en question qui a essayé de lui faire préciser. Bon, il est prêt à faire des efforts financiers.
Oui.
Pour réduire la charge de travail. Mm-hmm. Mais il n'est pas prêt à donner des augmentations plus élevées que l'inflation.
C'est ça.
Mais alors, vous, puis il manque d'infirmières.
Pour embaucher. J'essaye de voir. Il veut, moi, je pense qu'il veut que... Tu sais, quand il a dit...
Oui, mais les postes sont affichés, puis les gens, ils vont pas.
Ben c'est ça qu'il veut. Moi, je pense qu'il veut donner des incitatifs pour qu'ils appliquent ces maudits postes, puis qu'on les
donne. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils lèvent le... Tu sais, il n'y a pas ben de magie dans ça. Quand tu es dans une entreprise, peu importe l'entreprise, et que tu es à la recherche de tel type d'employé, puis tu es incapable d'en trouver... Tu montes ton offre.
Ouais, mais je pense qu'ils veulent la monter l'offre, pas par les salaires. Je pense qu'ils veulent la monter, notamment par le temps supplémentaire obligatoire. Je pense que s'ils étaient capables de diminuer le temps supplémentaire obligatoire, le recours au temps supplémentaire obligatoire, je pense qu'ils font le calcul. Là, je devine, là, OK? Là, je décode.
Mais je vois pas où est l'effort financier, Bernard. Aide-moi, là.
Ben, c'est parce que si t'embauches des infirmières à temps plein, veux pas, ta masse salariale, elle augmente, là.
Oui, je comprends, mais les postes sont là, puis les gens veulent pas les combler.
Ben, c'est pour ça qu'il faut trouver une manière pour qu'ils appliquent ces maudits postes. Puis
ben,
c'est
ça
là.
Veut dire lever l'échelon de bas, l'échelon du bas, le lever plus haut. C'est ça
ou,
que ça veut dire?
Ou encore, tu prends des engagements qu'elles seront pas obligées de faire du temps supplémentaire obligatoire plus que, je sais pas, là, tu sais, puis là, faut voir les conditions. Parce que moi, ce que je comprends, Luc, là, tu sais, à travers toutes les émissions qu'on a faites, puis les appels qu'on a eus, puis les entrevues qu'on a faites, Moi, j'entends pas les infirmières me parler d'argent. J'entends les infirmières dire, j'ai plus de vie calvasse. Fait que je quitte le réseau, je m'en vais dans une agence privée. Pour au moins, l'agence, je peux choisir la journée où je travaille. Je suis pas obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire. Tu comprends? Je pense que c'est au niveau des conditions, le problème. C'est pas au niveau des salaires.
Oui, j'aimerais, mais franchement, là, puis je m'engage à le faire pour demain, j'aimerais mieux comprendre toute cette mécanique-là, parce que, tu comprends, si t'es pas capable d'engager, c'est parce qu'il y a quelque chose de vicié dans ton système, soit que t'es payé pas assez cher, soit que les conditions sont pas bonnes. Je te suis, Bernard, mais ils sont pas capables d'en engager, c'est ça le problème.
Oui, c'est ça. Puis là, tu peux dire, c'est comme le chien qui court après sa queue, c'est-à-dire, le fait qu'elles appliquent pas, puis que les postes sont pas comblés, fais en sorte que tu es obligé d'aller chercher du monde dans les agences. Et le fait que tu vas chercher du monde dans les agences, fais en sorte que tu n'as pas assez d'infirmières dans les institutions, dans les établissements, ce qui fait que tu manques de personnel, ce qui fait que tu es obligé d'aller dans les agences. Tu comprends? En fait, si je voulais me résumer, les infirmières qui nous manquent...
Elles sont dans les agences.
Et voilà. Il faut trouver une façon de sortir des agences puis de les ramener dans le système puis de leur donner des postes qui vont stabiliser les équipes et qui vont faire en sorte que tu vas pas être obligé de faire de faire du temps supplémentaire obligatoire.
Mais on jase, là, comme
on dit.
Oui,
on jase.
L'expression à la mode, là.
Ben ouais.
Est-ce que le gouvernement pourrait aller jusqu'à dire c'est terminé les agences ou alors on coupe de 50% le recours aux agences? Ou est-ce que c'est ce genre de mesure? On jase, là. Je ne sais pas comment ils vont y parvenir.
Moi non plus. Puis honnêtement, Luc, si tu as écouté l'entrevue que j'ai faite avec Mme Bédard hier matin après la manif, là, c'était compliqué de la comprendre.
Ben, c'est pour ça que je comprends pas.
T'sais, la présidente elle-même, celle qui défend les infirmières... Moi,
elle nous parle de processus puis de normes.
J'ai rien compris à son mot, son discours.
Moi non plus.
Tu comprends?
Moi non plus.
Bon.
C'est pour ça que j'arrive pas. Ça ressemble à la quadrature du cercle. Ouais. Comment tu fais, comprends-tu, pour faire en sorte que t'as tes infirmières puis qu'elles sont plus dans les agences puis que... Tu sais, j'avoue là que...
Mais la question que tu poses est intéressante puis moi, je l'ai déjà posée, là. Si on disait il y en a plus d'infirmières là dans les agences là, on les prend plus. Là.
Ouais.
Là, moi je pense que la raison pour laquelle on l'a pas fait ça, c'est parce que si on fait ça, ils vont nous en manquer. Le calcul qu'ils font, c'est que si on va pas y chercher dans les agences, on va être encore plus dans le trouble qu'on l'est déjà.
Ben je le comprends pas, Bernard. Si je te dis, tu peux pas prendre dans les agences les femmes qui sont formées et les hommes qui sont formés pour être infirmiers et infirmières.
Ils vont retourner dans le système.
Ben oui.
C'est ce que tu penses. C'est ce que j'ai déjà pensé.
Ça m'apparaît logique.
Ben ça m'apparaît logique, mais comme on le sait, c'est pas toujours la logique qui marche dans ce système-là. Mais je suis d'accord avec toi que la question elle se pose. Parce que si tu leur interdis d'aller travailler dans les agences, puis qu'ils veulent travailler comme infirmières, ben ils n'auront pas le choix que de retourner dans le système.
Ben, c'est ce que je te dis.
Mais là, des fois, c'est tellement simple.
Ben oui, mais pourquoi on nous présente ça de façon si complexe? Ben, un, il n'y a pas assez d'infirmières. Deux, on peut pas en former en 3 mois comme des préposés aux bénéficiaires parce que ça demande beaucoup trop de compétences. Trois, on n'en a pas assez, donc on va chercher dans les agences. Pourquoi vont-elles dans les agences au lieu d'aller dans le système? C'est parce qu'on les force au temps supplémentaire obligatoire, puis on leur donne moins de flexibilité. Ouais. Alors donc, conclusion, change la convention collective.
Oui, mais tu vois, j'en ai un là, qui m'écrit, il dit « Demandez donc, Mme Bédard de la FIC, là, es-tu d'accord avec les horaires de 12 heures? » Tu sais, je t'ai parlé des horaires de 12 heures du côté anglophone, ça
les
marche.
Trois jours de filet.
Il y en a beaucoup moins de temps supplémentaire obligatoire. Tu sais, pourquoi est-ce que du côté francophone, on fait pas ça? Tu comprends,
je
Marie?
Je sais pas pourquoi.
Regarde, j'ai une infirmière de 39 ans là, qui m'écrit, là. Non, pas 39. Elle est infirmière depuis 39 ans.
Oh là
elle dit
«
Le gouvernement crée sa propre pénurie. Les postes affichés à temps complet » qui ne trouvent pas preneuses, sont des postes de cliniciennes, donc des infirmières qui ont un bac. Toutes les infirmières techniciennes, celles qui ont un DEC de 3 ans, ça c'est plus de 50 % des infirmières, même avec 40 ans d'expérience, ne peuvent pas accéder au poste à temps complet. Si ce qu'a dit Marie, c'est exact, là, puis à 39 ans d'expérience, là, t'en as une solution, Luc. C'est-à-dire qu'au lieu de réserver tes temps complets aux seules infirmières qui ont un bac, si tu en donnes à des infirmières qui ont 3 ans de collégial ou plusieurs années d'expérience, ben d'après ce que dit Marie, tu réglerais une partie de ta pénurie.
Ouais, ben, quand ça apparaît simple comme ça, je me dis, gratte un peu, il doit y avoir quelque chose de compliqué derrière.
Puis peut-être qu'en grattant, on découvrirait que ce serait une vraie bonne solution. Mais elle,
ça se pourrait, ça se pourrait.
39 ans d'expérience, puis
mais là, c'est le temps de passer à l'action, là. C'est pas le temps de bloquer les ponts, il faut qu'on fasse de quoi.
Faut trouver une solution.
C'est un peu ce qui a créé le malaise hier dans ce coup d'état-là.
Ouais.
C'est qu'écoute, on est tous là-dedans ensemble. Pourrais-tu, je sais pas, moi, s'organiser?
OK. Luc, on se reparle un peu plus tard.
À tantôt.
Après la pause, la ministre des cégeps et des universités est au bout du fil. Moi, je veux savoir, Mme McCann, allez-vous protéger nos profs contre le genre de folie qu'on a vu à l'Université d'Ottawa?